troisième partie d'études, Gérard Granel, publiée chez Galilée dans la collection Philosophie en effet, regroupe deux textes, deux études. Le premier sur le champ visuel et l'infini chez Wittgenstein, et l'autre illustre la peinture du Quattrocento à la lumière du traité de la peinture de Léonard de Vinci. Alors Wittgenstein, il approche les œuvres, dites-vous, de manière singulière. Wittgenstein, un auteur que vous avez donc beaucoup lu, puisque vous l'avez traduit,
et
publié.
Est publié. Maintenant, j'hésite sur ce texte, le monde et son expression, qui prend, qui ne fait pas trop de différence entre les remarques qu'on trouve dans les carnets des années 14-16, et puis la période de transition entre la première et la deuxième philosophie, c'est-à-dire justement les années 30. Et je ne suis pas absolument sûr de l'orthodoxie wittgensteinienne de ce que j'avance dans ce texte, je dois dire. Je me demande s'il n'y a pas du Granel là-dedans. Et derrière lui, du Kant. Si c'était du Kant, ça serait bien. Et plus peut-être, plus wittgensteinien qu'on ne le croit, à part sa fidélité à Frege, qui était un ancien. Donc, mais vraiment, je connais des gens, j'en ai au moins quelqu'un, c'est Elisabeth Rigal qui connaît Wittgenstein beaucoup mieux que moi, et qui me dit, c'est pas juste ton truc. Alors, je n'insisterai pas dessus. En revanche, je me sens assez solide. La lecture de l'origine, où en fait, au lieu de lire finalement l'origine de l'œuvre d'art de Heidegger, je me suis trouvé dans le Trattato della Pittura de Léonard, qui est le texte majeur de la modernité, hein, et génial d'un bout à l'autre, bien entendu. Ouais, alors j'essaye d'expliquer la mathématisation de la nature. La modernité est née d'une façon très simple, par mathématique, elle est née dans la mathématique, bien, bien avant même la géométrie de Descartes. Et comment cette mathématisation de la nature...
C'est ça l'origine
Oui, c'est l'origine, c'est sûr. La nature est scritta in lingua mathématica. Quand Galilée dit ça, il y a longtemps que les peintres le savent.
L'origine, c'est-à-dire le combat... La querelle, la dispute, le litige, le différent, je vous cite, de la terre et du monde, de l'ouvert et du refermé. On retrouve là peut-être Heidegger.
Bien entendu, ce obscur langage d'une certaine façon.
Léonard était heideggerien avant la lettre ?
Ah non, pas du tout. Léonard était cartésien avant la lettre, ou c'est pure moderne. Seulement, la peinture c'est un art, et il y a la fin de Léonard. Ce n'est pas que la maturité ne soit pas, donne pas de grandes choses, bien entendu, mais enfin moi, je suis mieux ici que d'aller voir la Joconde. La fin de Léonard dans les années d'Amboise, c'est-à-dire le moment où il abandonne justement toute cette structure représentative héritée de Brunelleschi, d'Alberti, etc., et où, je dirais, il peint déjà, excusez-moi cette audace, presque comme les impressionnistes, c'est-à-dire de façon qu'il appelle un culte. Et la composition est culte, componimento in culto, et puis il finit par non finito. Alors là, il y a tout d'un coup l'audace de l'art par rapport au savoir, et c'est le très grand, je crois que le Vinci final est le plus grand, le Michel-Ange final aussi du reste. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus à finir.
Et votre livre, Gérard Granel, étude non finito
Si, non finito, certo. C'est même pas un livre, parce que c'est une collection. Enfin, c'est un livre en tant qu'objet. Mais je veux dire, ce n'est pas un discours suivi, la page 1, la page 180, c'est un recueil. Hein, qui, je crois, encore une fois, a son unité profonde, enfin, qui n'est pas un texte suivi.
Mais c'est à la fin, en tout cas, que vous avez placé deux textes qui parlent de la naissance et de la mort. Celui sur la naissance a un titre peut-être un peu provocateur encore, mais on sait que vous en avez l'habitude.
Oui,
la phénoménologie décapitée.
Oui, j'en suis pas très content en plus, parce que le vrai sujet, c'est la naissance. La phénoménologie décapitée, c'est parce que ça veut dire décapité, donc privé de son chef, et le chef sous lequel Husserl écrit. C'est la raison. Alors, il y a eu d'abord une critique des idées de Deux, vous expliquez que la raison latente dans la sensibilité, ça tient encore moins le coup que le morceau de cirque cartésien. Bon, enfin, je crois, hein. De purs heideggeriens, de purs rousserliens, il y en a encore plus que les heideggeriens, qui me haïraient, qui vont me haïr en entendant ça. En revanche, donc la phénoménologie décapitée, c'est, ce titre vise cet aspect des choses. En revanche, il y a une problématique de la naissance qui est arrivée comme ça, je ne sais pas trop comment, que j'aime bien personnellement.
Et la dernière étude, elle parle de la mort.
Bien entendu.
Happy end.
Oui, happy. Je ne sais pas, elle est ni happy ni unhappy. Elle est même, ce qui est étonnant, c'est qu'elle est, elle est même pas la fin.
Non.
Hein, c'est simplement la dernière classe. C'est la dernière classe.
Puis elle revient à l'origine, puisque c'est la, elle parle de la mort à travers la figure de Socrate.
À travers la figure de Socrate, oui. Alors ça, c'est tout simplement, ce sont des notes de cours, hein, que je me suis résolu à livrer telles quelles, parce que je les croyais lisibles. Donc c'est beaucoup moins écrit que tout le reste. Et j'aime bien parce qu'il y a une vraie lecture du Phédon dans son, par exemple dans son langage. Pourquoi est-ce que Platon dit « notre désir, celui de la vérité », il appelle ça « épitumia », hein. Alors que dans la République, l'épitumien, c'est le vil besoin, puis au-dessus il y a le thumos, puis au-dessus il y a le nous, il y a la pensée. Et voici que la pensée elle-même est épitumétique. Elle est désir, des choses comme ça. Des choses que je crois, Socrate savait. Bon mangeur, bon buveur, amoureux des petits garçons, enfin, des jeunes gens. Et pas du tout l'homme obsédé par le détachement à l'égard du corps. Et finalement, alors je crois que Platon est un obsédé sexuel. C'est pas le seul. Il y a aussi Jean-Paul II, par exemple.
Vous qui avez lu beaucoup de philosophes, cher Arcranel, ouais. Pensez que la philosophie, ça peut apprendre à mourir?
Non. Je crois que la pensée de la mort peut apprendre, si tant est qu'il y a une pensée de la mort, plutôt de la mortalité, peut permettre un peu apprendre à philosopher. Dans l'autre sens. Je crois qu'on n'apprend pas à mourir. D'ailleurs, c'est ce qu'on comprend obscurément quand on cesse de s'en préoccuper. C'est-à-dire quand on est sûr qu'il n'y en a pas pour très longtemps. Et que la vraie réponse à la mort, c'est pas de l'ignorer, c'est pas non plus de s'en faire un problème. Est-ce que je vais être reçu ou collé à cet examen-là? Kein Sinn, ça n'a aucun sens. Mais c'est d'essayer d'honorer la vie, d'arriver à peu près propre au moment où cette foutue machine s'arrêtera. Bon, ben voilà. Quant au reste, on n'en sait rien. Donc comment voulez-vous qu'on le pense, qu'on s'y prépare, quoi. C'est pas un sujet, je dirais, la mort. Hein. L'être à la mort, chez Heidegger, n'est pas du tout quelque chose de morbide, de mortifère, de macératoire, de je ne sais quoi. Hein. C'est simplement rappelé. C'est pas plus étonnant que Aristote disant que l'âme est la forme du corps. Si l'âme est la forme du corps, alors quand le corps se délite, la bulle et les irisations de la bulle éclatent. C'est tout ce qu'on sait. Mais c'est important, parce que c'est le contraire de Platon, c'est le contraire de l'immortalité de l'âme, etc.
Le livre de Gérard Granel, Études, est publié chez Galilée. Du jour au lendemain, Simone Rongier, Bruno Sourcy, François Poirier, Alain Weinstein. Bonsoir.
Thank you.